D'écouter les programmes de Studio Kalangu. Il est 18h, le journal de ce mercredi 10 février 2021. C'est avec Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a dressé ce matin à Niamey le bilan des élections des 13 et 27 décembre 2020. C'est à l'occasion d'une rencontre d'échange avec la presse et les acteurs de la société civile. Les États sahéliens rencontrent toujours des difficultés dans la lutte contre le terrorisme, estime le directeur du projet Sahel de l'International Crisis Group. C'est ce qui ressort du rapport de l'organisation publié le 2 février. En partie magazine de ce journal, nous parlerons de l'impact de la COVID-19 sur les activités du Bureau nigérien du droit d'auteur BNDA. Bonsoir à tous. Rencontre d'échange ce matin à Niamey entre la Commission électorale nationale indépendante CENI, les acteurs de la société civile et les médias. À cette occasion, le président de la CENI, Maître Issaka Souna, est revenu sur les difficultés rencontrées lors des précédents scrutins de décembre 2020.
Nous avons enregistré quelques difficultés et insuffisances à propos de la logistique, à propos de la sécurité. Les véhicules que nous avons obtenus, soit réquisitionnés, soit de location, n'étaient pas toujours soit en bon état et quelques-uns aussi n'étaient pas adaptés au terrain. Sur le plan sécuritaire, plusieurs attaques ont été dirigées contre le personnel et le matériel de la cible dans les régions de Tulaberi, Difa, dans la région de Tawa aussi. Heureusement, nous n'avons pas enregistré de morts dans les rangs du personnel de la CENI. Malheureusement, nous avons enregistré des morts dans les rangs des militaires qui assuraient la sécurité de notre personnel et du matériel. Dans certains cas, les bureaux de vote n'ont pas pu fonctionner parce qu'il y a de l'insécurité et des menaces avérées autour des bureaux de vote et dans certains villages. Dans certains cas, des menaces étaient directement proférées contre des électeurs par des terroristes.
Des propos recueillis par Tarnan Foudey Ahmed. Dans sa tournée pour sensibiliser les populations sur les élections apaisées, la caravane du médiateur de la République était hier à Maradi. Cette rencontre a regroupé les jeunes, les femmes, les leaders religieux et coutumiers. Les détails avec le conseiller spécial du médiateur, Dr Hunto Abdoulaye, au micro de Mohamed Maman.
Le médiateur, dans son message de paix, d'unité nationale, de cohésion sociale, donc il en appelle à la conscience citoyenne pour que les gens se mobilisent pour des élections apaisées, inclusives et fraternelles. Sans la paix, il n'y a pas de développement possible au Niger. Au niveau de Maradi, tous les acteurs se concertent pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'il n'y ait pas de violence. Et ils demandent aux médiateurs de continuer à porter ce message-là dans l'ensemble du Niger. Les jeunes et les femmes représentent plus de la majorité du corps électoral. Et donc c'est un bon signe qu'ils sont vraiment républicains et ils sont là pour écouter le médiateur, les leaders religieux, les élus. Leur travail, c'est aussi de faire passer le message à toute la base pour que tous les Nigériens se mobilisent comme un seul homme pour dire que quel que soit le vainqueur, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous Nigériens, on a travaillé ensemble pour la paix sociale. C'est très important pour notre développement.
Réordonner les stratégies de déstabilisation du Sahel, c'est l'intitulé du dernier rapport Afrique de l'ONG International Crisis Group, publié le 2 février 2021. Les États sahéliens et leurs principaux partenaires de la lutte contre le terrorisme rencontrent des difficultés pour enrayer l'insécurité de la région. C'est ce qu'estime le directeur du projet Sahel à l'ICG. Jean-Hervé Jezekel est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Il s'agit essentiellement aujourd'hui de faire un bilan qui souligne les limites de ces stratégies de stabilisation et d'essayer également de tirer des leçons de ces limites. Alors pourquoi limites ? Parce qu'on voit bien que si on regarde les cartes de l'expansion non seulement des groupes djihadistes mais plus largement des zones de violence armée, indubitablement on a une très forte expansion. Et puis inversement, même si de temps en temps on a des sortes de reprises en main d'un point de vue militaire avec des sortes de contre-offensives ou une mise sous pression des groupes djihadistes, malgré tout ce qu'on observe, c'est que nulle part, au fond, les États du Sahel sont capables de remettre un pied de manière décisive dans les zones qu'ils ont perdues ces dernières années. Pour ces raisons, il nous a paru intéressant d'essayer de voir pourquoi, en fait, on n'arrivait pas à enrayer comme ça la descente de plus en plus de territoires du Sahel dans des spirales de violence. Voilà, des États du Sahel, mais aussi de leurs partenaires, en particulier de la France, qui s'est un petit peu imposée comme le chef de file hein, des partenaires internationaux dans les politiques de stabilisation du Sahel.
La suite de cette édition, les travaux de construction de la ligne ferroviaire Kano-Kassina-Maradi ont été lancés hier à Kassina au Nigeria. Selon le vice-président du conseil régional, Sadisu Umaru, cette infrastructure représente l'aboutissement d'un rêve pour la population de Maradi. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous sommes intimement convaincus que, avec la réalisation de cet ouvrage-là, l'économie de la région a une opportunité pour redémarrer et retrouver ces nœuds de l'Ouest, comme on savait, pour la région de Maradi. Imaginez le tour, les transits, ne serait-ce que pour le Niger, et qu'on dise aujourd'hui ça va passer par la région de Maradi. C'est quelque chose de tout simplement formidable pour la région. Des opportunités économiques, des opportunités d'emploi qui s'offrent à nos jeunes et qui s'offrent pratiquement à tous nos opérateurs. Pas seulement nos opérateurs de la région de Maradi, mais les opérateurs même des autres régions d'ailleurs. La quasi-totalité aujourd'hui des transactions passe par le Bénin, passe par le Ghana, un peu par la Côte d'Ivoire. Mais avec la leçon de ce chemin de fer, on est convaincu qu'il est plus facile, à partir de Lagos, de faire transiter tous nos bagages ici, pour questions économiques, aussi pour questions sécuritaires.
Retour ici à Niamey, où on constate une cherté de la pomme de terre sur les marchés, en dépit de la période qui est favorable à sa culture. Selon le secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, les fortes chaleurs seraient la cause. Alassane Sido est joint au téléphone par Rukayeto Abdrahman.
Certaines années, on peut trouver le kilo à 200 francs, ce qui fait que cela a un peu changé. Avant, les gens font la production ensemble. Cette fois-ci, il y en a des producteurs qui vont semer avant et il y en a qui vont semer un peu tard, à un certain moment où il y a un peu de chaleur. Donc avec cette chaleur-là, ça a fait que les premiers semis n'ont pas pu réussir. Dans 100 producteurs, on peut y avoir 30 ou 40 dont leurs semis n'ont pas réussi et ils seront obligés de reprendre les semis. Maintenant, c'est Agadaz et Bonkoukou qui ont commencé à amener de grandes quantités à Niamey. Le prix de la pomme de terre sur le marché, en détail, on peut le trouver à 300 comme à 350 francs le kilo auprès des détaillants.
À Tillabéri, l'insalubrité ambiante constatée de la ville est la conséquence d'une mauvaise évacuation des ordures ménagères, estime l'agent de l'hygiène et assainissement à la mairie. C'est pourquoi il attire l'attention des populations sur la collecte et l'utilisation des conteneurs au niveau des dépotoirs. Moumouni Hamadou, responsable de l'hygiène et de l'assainissement de la mairie de Tillabéri, est au micro de Boubacar Oumarou.
Puisque la mairie est l'acteur principal de la gestion de ces déchets-là, les gens dans leur entendement pensent que tout ce qui est produit doit être évacué par la mairie de leur résidence ou bien du lieu de stockage, les dépotoirs que nous qualifions d'ailleurs de dépotoirs sauvages, puisqu'il y a un certain nombre d'endroits que nous avons désignés pour que les gens amènent ces déchets-là pour faciliter l'enlèvement à la mairie. Donc, cette consigne-là n'est pas respectée. Les gens, à chaque tournant ou bien dans les parcelles vides, ils constituent ces dépôts-là. Et c'est très difficile à la mairie de les contenir. Lorsque même les gens amènent ces déchets-là au niveau des sites officiels désignés par la mairie, les gens versent les ordures à côté des conteneurs. Normalement, on doit stocker ces ordures dans un récipient qu'on peut soulever et pour qu'une fois sur le site, on pouvait mettre ça dans le récipient indiqué.
Parlons éducation. Fin hier à Zender de la grève de 2 jours des élèves du secondaire de la région. De leur revendication, ils exigent des autorités la dotation de certains établissements en table bon, l'affectation des enseignants et bien d'autres points. Notre correspondant Ali Keta s'est entretenu avec Zaberou Malam Kadri, le secrétaire général de la section lycée et collège de la ville de Zender. On l'écoute.
Nos revendications sont les problèmes des enseignants, les problèmes des talibans, les manques de clôture. Et aussi, certains problèmes qu'on arrive à avoir, c'est-à-dire des incompréhensions entre les scolaires de la ville de Zender et ses enseignants. C'est face à ça que la section s'est réunie avec les différentes sous-sections. Après donc cette réunion, la section et ses différentes sous-sections ont décidé de lancer le mot d'ordre des 48 heures, raison pour laquelle hier et avant-hier, nous étions en grève. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, personne des administrateurs ou bien les autorités qui sont en charge de l'éducation ne nous ont pas appelés. Face à nos revendications juste et légitime. Si aujourd'hui ils ne vont pas nous écouter face à ces problèmes, nous allons continuer notre lutte la semaine prochaine.
Un mot de sport dans ce journal. Le cyclisme de la région d'Ottawa se porte mal, annoncent les responsables de la discipline sportive. Selon la fédération régionale, le manque de moyens a entraîné l'annulation d'une compétition qui devrait réunir les cyclistes de la région. Nezir Mamman, membre de la fédération de cyclisme d'Ottawa, explique au micro de Idriss Adamou.
Nous étions animés du courage en ce qui concerne le cyclisme. Nous avons même envisagé d'organiser un championnat régional du cyclisme avec des cyclistes de Madawa, de Malbaza et de Dogarawa. Mais l'arrivée de la pandémie de COVID-19 a tout remis en cause. Il faut reconnaître aussi qu'il y a un relâchement à notre niveau même. Il y a des jeunes qui aiment ces sports, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vélo. Tout tourne autour de ça. Je pense que si nous arrivons à trouver suffisamment de vélos, beaucoup de jeunes qui ne sont pas intéressés par le cyclisme finiront par l'aimer. Je lance un appel aux bonnes volontés qu'elles nous fournissent des vélos. Vraiment, si nous arrivons à résoudre ces problèmes, nous allons développer le cyclisme dans cette région d'Ottawa.
Eh oui, vous êtes bien sur le studio Kalangu. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez à partir du mercredi 27 janvier 2021 nos nouveaux habillages sonores. Studio Kalangu, 5 ans d'activité au rythme du Niger. À présent, le magazine de ce journal. Au Niger, plusieurs institutions publiques et privées sont touchées par les conséquences de la pandémie de la COVID-19. C'est le cas, par exemple, du bureau nigérien du droit d'auteur BNDA, dont environ 50% des activités sont négativement impactées. C'est ce qu'explique la directrice générale du BNDA, Mme Zarami Faji Kachella. Elle est au micro de Mokhtar Hamadou.
À notre niveau, le bureau nigérien des droits d'auteur, on a des usagers qui sont vraiment impactés par cette pandémie-là, notamment les bars, les restaurants et même les agences de téléphonie mobile. En fait, dans tout le domaine, ça a impacté de sorte qu'on était obligé un moment de surseoir aux dispositions de nos textes, de ne pas appliquer à la lettre comme on le fait, surtout du paiement du droit d'auteur, particulièrement l'année 2021, je vous assure, et même la collecte du droit d'auteur. Ça a impacté beaucoup sur les redevances parce qu'il fallait aussi prendre en compte cette situation.
Madame la directrice, quelle était la contribution du ministère de tutelle?
Notre ministère de tutelle nous a directement avisé pour qu'on prenne en compte cette situation et de ne pas déstabiliser nos utilisateurs. Sinon, l'année passée, il y avait un nouveau arrêté qui devrait être vulgarisé, mais la situation a fait qu'on n'a pas pu vulgariser cet arrêté. Voilà que cette année, on voudrait la mettre en application. D'une manière générale, il y a une grande partie de nos utilisateurs qui ignorent ces nouvelles dispositions. Mais bon, maintenant, on se déplace, moi personnellement, pour les renouvellements des nouveaux contrats, je fais porte à porte.
En termes de chiffres, est-ce que vous avez pu évaluer l'impact?
L'impact est tellement négatif que ça avoisine les 50% qu'on a perdu. En tout cas, les redevances qu'on a l'habitude de recouvrer et 2020 nous a pas permis de faire comme d'habitude.
Comment vous faites pour maintenir les activités de l'institution?
Pour maintenir, c'est pour donner l'équilibre par rapport à tout ce qui a été perdu, comme on le dit, les manques à gagner. Parce qu'avant, c'était les textes qu'on envoie et puis voilà, on discute le contrat, tout ça. Mais maintenant, la situation oblige qu'on se déplace vers les usagers. D'une manière, en tout cas générale, il n'y a pas un dispositif ferme qui nous permet de se ressaisir. Je suis sûr que les usagers aussi vont nous aider à payer à temps les droits. C'est surtout ça. On compte beaucoup sur les usagers qui nous facilitent de payer sans tirailler, de payer les droits d'auteur. Par rapport à la situation du Covid, le virus existe, ça circule dans notre pays. Donc c'est justement de respecter la distanciation, le port de bavette et lavage des mains pour éviter encore de ne pas vivre la même situation.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre tout de suite le forum sur la contribution des leaders religieux pour des élections apaisées au Niger. C'est avec Michel Déji. Et oui, vous êtes bien sur le studio Kalangou. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez à partir du mercredi 27 janvier 2021 nos nouveaux habillages sonores. Studio Kalangou. Activité au rythme du Niger.